Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime avec toute notre équipe, Bernard Gic, Stéphane Lemoine aujourd'hui aux manettes de cette émission, Jules Roy qui a retrouvé des pépites dans les archives sonores d'RTL, on en parlera tout à l'heure, David Buron qui d'ailleurs a effectué un reportage pour l'émission d'aujourd'hui, Perrine Suquet bien sûr, et Caroline près de moi, bonjour Caroline.
Bonjour Jacques.
Et bien sûr, tout au long de cette émission, vous allez pouvoir nous contacter, nous faire part de vos questions, de vos réactions, de vos témoignages, pourquoi pas, au 3210, le standard téléphonique d'RTL, ou alors par rtl.fr. Vous pouvez aussi nous envoyer des courriels. Et aujourd'hui, c'est le portrait d'un des derniers grands aventuriers de la fin du 20e siècle, pardon, Bob Denard, qui a participé à la tête d'une équipe de mercenaires à de nombreuses opérations militaires en Afrique, aux Comores, pendant plus de 35 ans. Ces hommes l'appelaient le patron, ou encore le colonel. Et pour savoir qui était vraiment Bob Denard, qui, il faut le dire, est mort en octobre 2007, eh bien j'ai invité sa fille Katia Denard, qui vient de publier aux éditions Anne Carrière un livre exceptionnel, je pèse mes mots. C'est un livre, un document bouleversant consacré à ce père si souvent absent. Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas. Bonjour Katia Denard.
Bonjour Jacques Pradel.
Alors, explication du titre quand même, c'est ce que vous disait votre père.
Oui, la plupart du temps, c'est même devenu une blague à force. C'est que moi, je posais beaucoup de questions, donc j'avais cette réponse à peu près, je sais pas, 10 fois sur 10, quoi.
Oui, régulièrement, quand vous étiez petite fille, il n'était jamais là, quoi, ce père.
Moi, j'ai eu la chance de l'avoir un petit peu, quand même. Il a vendu des voitures pendant 2-3 ans, et comme j'étais petite, ça m'a permis de l'avoir auprès de moi.
Ouais. Et donc, évidemment, comme toutes les petites filles qui vont à l'école, il fallait de temps en temps remplir la fiche nom et profession des parents. Vous mettiez quoi
Alors ça, c'est arrivé un peu plus tard. Donc chaque année, je changeais. Donc j'ai commencé par chômeur. J'ai mis conseiller technique pour pas qu'on me pose des questions. J'ai mis poissonnier aussi.
Voilà. Oui, mais jamais mercenaire.
Jamais mercenaire, sauf une fois où je sais pas ce qui m'a pris. J'ai dit ça à ma prof d'histoire géo. Je lui ai dit qu'il renversait des gouvernements. Donc elle m'a dit tu n'as qu'à mettre conseiller technique copolitique. Voilà.
Alors en face de vous, vous êtes venu avec Christophe Gauthier. Bonjour Christophe.
Bonjour Jacques, bonjour tout le monde.
Christophe Gauthier, donc journaliste indépendant, grand reporter. Vous avez publié d'ailleurs un article à propos de la parution de ce livre dont on vient de rappeler qu'il est sorti il y a à peine une semaine aux éditions Anne Carrière. Et vous avez rencontré Bob Denard, mais dans des circonstances quand même assez particulières, cuisantes on pourrait dire, non ? Vous avez encore le souvenir d'une blessure de guerre.
Une blessure de guerre, oui, aux Comores, au mois d'octobre 1995, au moment de l'intervention française. En fait, Bob Denard, j'ai rencontré un petit peu avant, parce qu'on a eu la chance, quand je dis on, c'est que j'étais avec un photographe. À l'époque, j'étais envoyé spécial pour le magazine VSD. Oui. Et on a eu la chance de pouvoir travailler dans l'île tranquillement, parce que le colonel nous avait permis d'atterrir. On était les seuls journalistes, donc pendant 3-4 jours, on a pu travailler et œuvrer.
Un rêve de journaliste, ça.
Absolument, ouais. Et puis quand il a vu que ça commençait à tourner un petit peu vinaigre, que l'armée française avait préparé une intervention, il a ouvert l'aéroport de Moroni, la capitale des Comores, et il a permis à toute la presse de rentrer. Et il a d'ailleurs ensuite invité tous les confrères à monter jusqu'à Kandani. Kandani, c'était le camp militaire dans lequel il était retranché, pour que les confrères servent de bouclier humain en réalité, pour éviter que l'armée française ne commette l'irréparable, parce qu'il était à ce moment-là persuadé qu'il
allait être exécuté.
Qu'il allait être exécuté.
Il avait raison, je pense.
Katia, oui.
Je pense qu'il avait raison d'être persuadé qu'il allait être exécuté. C'est ce qui serait passé si les journalistes n'avaient pas été là.
Ouais. Et comment vous avez été blessé au cours de ces événements?
Le matin du 4 octobre 1995, l'armée française débarque. C'est un gros débarquement. Le GIGN, les commandos marines qui venaient de Djibouti, le RIMA qui était stationné à La Réunion. Donc un dispositif extrêmement impressionnant. Navire de guerre, Zodiac, hélicoptère, enfin quelque chose, vraiment une opération comme dans les films hollywoodiens. Ouais. Et on circulait avec mon équipe, on circulait près du vieil aéroport de Moroni. Il y avait un point de Bob Denard avait mis à cet endroit-là des hommes à lui avec une mitraillette, une 12-7, enfin une grosse mitrailleuse. Ouais. Et on circulait. L'armée française avait pour mission de neutraliser les mercenaires, de reprendre le contrôle des points point stratégique de la ville. Et on a été arrosé et je me trouvais au mauvais endroit, au mauvais moment. Et donc j'ai été blessé. J'ai pris une balle dans la jambe, des éclats un peu partout. Ouais. Et donc moi, la fin de l'histoire, je la connais pas parce
Oui, parce que là, vous avez été évacué.
Parce que moi, j'ai été évacué et donc j'ai pas vu la reddition de, qui est intervenue quelques heures après.
Mais Bob Denard s'est enquis de vous. Après ça, on y reviendra tout à l'heure et on en parlera. Vous venez de parler du 4 octobre 1995. Il faut rappeler que une semaine avant ce jour du 4 octobre, Bob Denard avait renversé le régime du président Saïd Mohamed Johar après avoir débarqué lui aussi à la tête d'une trentaine de mercenaires, notamment à bord de Zodiac. Et la France a décidé cette fois d'intervenir pour rétablir l'ordre, ce que vous venez de nous dire. Et le 4 octobre, le jour donc où vous avez été blessé, Bob Denard, lui, est cerné par les troupes de l'armée française dans ce camp dont vous avez parlé. Il est prêt à se rendre. Et comment le sait-on qu'il est prêt à se rendre? C'est un scoop d'RTL, tout simplement, parce que Bernard Lehu, de la rédaction d'RTL, réussit à le joindre par téléphone et il diffuse cette conversation sur l'antenne. Écoutez.
Je suis pour parler, alors, sous pression, là, vous devez bien le comprendre.
Donc il n'y a pas de combat, il n'y a plus de combat pour l'instant?
Il n'y a plus de combat pour l'instant.
Donc vous négociez une reddition?
Oui, c'est exact.
Mais vous êtes déçu?
Non, il ne faut pas tout de suite. Je sais que vous cherchez la psychothérapie dont on aurait eu besoin, peut-être, mais non, je ne suis pas déçu. Je suis au contraire très fier de mes hommes. Hormis à part que ce combat fratricide ne pouvait pas avoir lieu, quoi.
Et alors, vous allez rentrer à Paris?
Je ne sais pas tout ça, je ne peux pas vous dire. Monsieur de Charette a dit que j'allais rentrer en prison, alors il doit savoir de quoi il parle.
Mais vous êtes prêt à assumer vos responsabilités?
Mais ma foi, qui voulez-vous qui les assume à ma place? C'est normal, je suis le seul responsable.
Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette nouvelle aventure, monsieur Denard?
C'est une dette d'honneur, vous ne pouvez peut-être pas comprendre.
Dette d'honneur. Alors on va reparler du personnage, évidemment, de ce personnage qui est devenu un mythe à la fois pour ceux qui ont combattu avec lui, pour vous, Katia Denard, évidemment, parce que c'était votre papa, bien sûr. Et puis on demandera aux journalistes ce qu'ils pensent aussi du parcours de votre père, qui n'a pas été un parcours semé de feuilles de fleurs, enfin de pétales de rose, hein, c'est
pas
ça que
toujours,
je voulais dire.
Non.
Voilà. On l'a accusé d'assassinat, on l'a accusé de torture, on l'a accusé quand même d'avoir soutenu des régimes comme le régime de l'apartheid à l'époque. On reviendra sur tout cela pour faire la part des choses et on se retrouve dans un tout petit instant après une première pause.
14h-15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Qui était vraiment Bob Denard, qui étaient ces mercenaires qui pendant 40 ans ont participé à des opérations, parfois d'ailleurs commanditées en sous-main par la France. On y reviendra tout à l'heure avec Christophe Gauthier, qui est invité de cette émission, qui a raconté comment, dans quelles circonstances il avait rencontré Bob Denard au cours de ce coup d'État de 1995 aux Comores. Pour savoir qui est le personnage, il y a une clé maintenant, désormais. C'est un livre que votre père n'a jamais lu, que vous auriez aimé qu'il lise.
Je l'ai fait pour ça. À la base.
Ouais. Ouais, Katia Denard, donc, alors, l'un des enfants, hein, la première fille de Bob Denard, on reviendra là-dessus parce que la vie de votre famille a été très agitée, comme la vie de votre père. Ouais. Et vous publiez ce qui pourrait être considéré comme une sorte de longue lettre à votre père. Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas. Ce récit est paru aux éditions Anne Carrière. Alors, pour commencer à mieux cerner la personnalité de votre père, on va revenir à une archive RTL. Évidemment, c'est un souvenir douloureux pour vous. C'est le 14 octobre 2007 où on apprend que Bob Denard vient de mourir à l'âge de 78 ans. Il souffrait de la maladie d'Alzheimer. Ouais. Et sur RTL, le lendemain de sa mort, on parle beaucoup de lui, bien sûr. Et Jean-Alphonse Richard évoque sur l'antenne une vie, vous allez le constater vous-même, digne d'un roman d'aventure.
Plus de 30 années passées à faire le coup de feu et presque autant de surnoms. Bob l'Africain, Bob Baroud, Saïd Mustapha, quand il s'autoproclame vice-roi des Comores ou encore le corsaire de la République. C'est comme cela qu'il se présentait, affirmant avec sa voix grave, marquée par l'accent du sud-ouest, avoir toujours servi de bras armés à l'État français. Une version valable jusqu'à la fin des années 60, puis largement usurpée avec des renversements de régime de plus en plus sombres et douteux. Après les opérations quasi officielles au Katanga, Congo, Yémen, Voilà donc le temps du mercenaire pur et dur en Angola et aux Comores. Un archipel qui va rendre célèbre Bob Denard. Assassinat du président Ahmed Abdallah, installation d'une garde prétorienne, conversion à l'islam. Au milieu des années 80, il est le maître absolu de ce petit pays de l'océan Indien. Financé par le milieu corse, il tentera d'y reprendre pied sans succès en 95. Une vie sulfureuse et romanesque, ponctuée de condamnations judiciaires jusqu'à ce dernier procès en 2006. Le chien de guerre n'était alors plus qu'un vieillard fragile et épuisé.
Et c'est vraiment le dernier représentant de ces mercenaires qui ont donc pendant près de 40 ans participé, Katia Denard, à tous ces coups d'État à travers le monde, et spécifiquement pour votre père à travers l'Afrique et les Comores. Tout à l'heure, on écoutera David Buron qui, pour, je le disais très très rapidement au début de l'émission, David Buron a envie de savoir que sont devenus les mercenaires. D'abord, est-ce qu'on peut retrouver des mercenaires qui ont connu votre père? Qu'est-ce qu'ils pensent de lui? Quel est le souvenir qu'ils conservent de cet homme? Et puis aussi, par qui ont-ils été remplacés? Et on a des réponses à ces questions. David Buron nous dira ça tout à l'heure, un petit peu plus tard dans l'émission. Je reviens à votre livre. Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas. Vous avez presque mené votre propre enquête vous-même sur ce père, alors qui partait brutalement, qui arrivait quand on l'attendait pas, mais qui était quand même. Et ça, c'était une certitude de petite fille qui a dû beaucoup compter dans votre vie, qui était toujours là quand même quelque part. Vous saviez que si vous arrivez quoi que ce soit, il était là.
Oui, il était extrêmement présent, même quand il était absent. Déjà, je l'avais au téléphone quasiment tout le temps. On a eu une grande relation épistolaire aussi, on s'écrivait tout le temps. Et puis, son absence le rendait encore plus puissant parce qu'il me disait si t'arrives quoi que ce soit, tu me le dis, papa arrive. Enfin, en gros, c'était ça depuis que j'étais toute petite.
Ouais.
En gros, si on t'embête, je te défendrai.
Et à plusieurs reprises, vous avez pu vérifier que. Alors, s'il venait pas en personne, il envoyait quelqu'un, l'un
alors,
de ses hommes.
Oui, c'était des détails parce que moi, je n'ai jamais utilisé ça. C'est-à-dire que je m'en suis jamais servi. J'ai appris à me défendre toute seule parce que je mettais à point d'honneur à ne pas m'en servir. Mais quand il y avait des détails de la vie quotidienne, par exemple, je me suis retrouvée quand j'étais petite bloquée dans des toilettes. Ouais. Voilà, il a fait voler la porte au lieu d'appeler le concierge pour juste débloquer la serrure.
Papa super héros.
C'est un peu ça. Voilà. Ouais. Donc, déjà que quand on est petite fille, notre père nous paraît tellement grand et puissant. Donc là, ça l'était encore plus.
Ouais. Mais alors, il vous est arrivé d'aller fouiller dans des valises. Bah oui, vous le dites.
On
peut le dire puisque vous l'avez écrit.
Tout à fait. Ouais.
Trouver quelquefois des billets. Oui. Vous aviez quel âge?
Là, je devais avoir une dizaine d'années, 9 ou 10 ans. C'était des Pascal à l'époque, c'était des gros billets.
Vous ouvrez une mallette comme
ouais,
ça.
Une mallette.
Vous forcez une mallette.
Alors, à mon âge, c'était pas très facile, mais disons qu'il avait oublié de. Vous savez, c'était les anciennes mallettes des années 70 où il y avait des codes. Donc, il avait dû tout laisser sur zéro, et puis je l'ai ouverte et j'ai vu tous les billets qu'il y avait dedans.
Ouais.
Voilà.
Et puis bon, des passeports, des choses comme ça.
Des passeports avec toujours la même photo, mais des noms différents. Ouais. Donc ça me posait question aussi. J'étais petite, ouais.
Quand est-ce que vous avez fini par comprendre que votre père faisait un métier quand même très différent de ceux des parents de vos petits copains et de vos petites copines?
Alors ça, qu'il faisait un métier très différent de mes petits copains, mes petites copines, je l'ai compris tout de suite. Par contre, je n'ai pas compris tout de suite qu'il était mercenaire. C'est venu petit à petit, pas que à force de fouiller d'ailleurs. Quand je vais aux Comores la première fois, j'ai 6 ans, et quand j'arrive sur le tarmac, je vois qu'il n'y a que des militaires et que dès qu'ils passent quelque part, on se met au garde à vous. Donc je commence à me poser des questions à ce moment-là.
Ouais. Christophe Gauthier, il faut alors faire la part des choses. C'est très difficile quand on est l'enfant de quelqu'un. Hein, on se met à la place de Katia. Y a des tas de gens qui considèrent que votre père est un salaud, un type qui s'est mal conduit, qui a tué des gens, qui les a torturés.
Probablement.
Comment peut-on faire la part entre la légende et la réalité, Christophe Gauthier?
La réalité, c'est que Bob Denard a servi la République et que ce monsieur et les gens avec qui il travaillait servaient les intérêts français.
C'est pour ça qu'il avait intitulé ce livre « Corsaire de la République ».
Oui, le corsaire de la République. Oui, il se considérait comme un corsaire de la République au sens étymologique du terme, comme un vrai corsaire, non pas un pirate, mais un corsaire. Alors, naturellement, on demandait à des gens de faire le sale boulot, parce que la politique, parce que l'armée française, parce que la diplomatie interdisait de le faire. Et pendant très longtemps, on a considéré que c'était bien pratique d'envoyer Bob Denard et ses hommes faire le ménage.
Il était proche du SDEC, proche des réseaux de la France-Afrique, qu'on a appelé plus tard la France-Afrique.
Il a été.
Les réseaux Focard.
Je pense que Katia pourra vous le confirmer, mais quand elle était petite, elle a vu des gens du SDEC venir rendre visite à son père régulièrement. Il a travaillé ensuite pour la DGSE, il a travaillé pour les services secrets de Sa Majesté, quand il était au Yémen, il a travaillé pour les Anglais. Ouais. Donc, alors évidemment, le sale boulot, c'est le sale boulot. Il faut quand on fait un coup d'État, quand on fait la guerre, quand on renverse des gouvernements, on fait pas ça avec des pistolets à bouchons. Naturellement, il y a de la violence, il y a parfois le sang qui coule. Pour autant, est-ce que c'était un salaud? Je pense que non. Je pense que c'était quelqu'un qui était surtout animé d'un vrai idéal, qui le défendait et que il a voulu rendre service à la nation, à la patrie.
Alors on va continuer ce portrait en creux et en relief de Bob Denard, et on retrouve Katia Denard et Christophe Gauthier dans un petit instant après une nouvelle pause.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
14h-15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Le portrait d'un des derniers mercenaires dans cette émission aujourd'hui, avec Katia Denard, la fille de Bob Denard, avec Christophe Gauthier, journaliste qui a enquêté sur son parcours. On y revient dans un instant. D'ici là, vos questions, vos réactions, vos témoignages au 3210 ou sur RTL.fr.
Dans le sillage de son parfum, j'aurais pu la suivre des heures.
Merveille, Florent Pagny qui sera d'ailleurs en concert acoustique du 7 au 19 juin au Théâtre Marigny à Paris avec RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et nous revenons donc sur le personnage de Bob Denard à travers ce qu'en dit sa fille Katia Denard, qui publie aux éditions Anne Carrière un très beau livre, qui est une sorte de longue lettre à ce père disparu qui n'a jamais lu le livre. On le disait tout à l'heure, le titre, si on te demande, tu diras que tu ne sais pas, c'est la réponse qu'on donnait à la petite fille qu'elle était quand elle demandait la profession de son père. Et puis Christophe Gauthier, journaliste qui s'est trouvé aux Comores, comme il nous l'a dit tout à l'heure, il connaît bien le parcours de Bob Denard, est avec nous. Et on va voir tout de suite, Katia Denard, en fait, l'ambiguïté du personnage et l'ambiguïté du souvenir qu'on peut avoir du personnage. On vient de recevoir un courriel là, par RTL.fr de Serge qui dit « Bonjour, je suis d'origine africaine et d'où je viens, le nom de Bob Denard est associé à la face la plus ignoble du colonialisme français en Afrique. Quand je vous entends parler de mythe, je trouve ça vraiment insultant. Ouais. Mais il continue. Toutefois, le livre de Katia, il l'a lu donc, est magnifique. Sa posture comme fille est légitime. Voilà. Donc, on en est là. Alors, comment vous êtes débrouillée avec ça, une fois devenue adulte?
C'est un peu compliqué. En fait, ce qu'il dit, ce monsieur dans son mail, c'est aussi l'histoire de ma vie, c'est être tiraillé entre le questionnement, est-ce que, voilà, papa fait la guerre, mon père a-t-il tué des gens, etc.
Il fait la guerre au Katanga, au Yémen, ailleurs, dans Congo. Beaucoup de pays d'Afrique, au Congo. Hein.
Mais, et l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que, d'une fille pour son père, ou on pourrait comparer ça aussi à l'amour d'une mère pour ses enfants, c'est-à-dire que quoi que fasse son enfant, on l'aimera toujours. Et là, c'est ça, en fait. Il s'agit vraiment de ça.
Le fait que vous soyez devenu psychanalyste, est-ce que ça a quelque chose à voir avec la question est stupide, hein, mais je la pose, je l'exprime. Mais si, je l'exprime. Mais est-ce que vous êtes devenu psychanalyste à cause de la vie que vous avez eue?
Oui. Clairement oui, parce que je me suis aperçue que je voulais devenir psy quand je suis allée sur le divan, et je n'y serais peut-être, je dis bien peut-être, pas allée si je n'avais pas eu le père que j'ai eu. Voilà, donc je pense que oui. Et puis aussi, ça prend aussi sa source, la psychanalyse. Vous savez, la psychanalyse, c'est très cadré. Il faut y aller une fois par semaine, une heure par semaine, pour que ça fonctionne. Mm-hmm. Et moi, je suis allée voir mon père en prison une heure par semaine, une fois par semaine. Et je crois que c'est là que j'ai commencé à apprécier de parler en tête-à-tête, en l'occurrence avec lui, de manière aussi cadrée. Moi, je pense que ça a pris le berceau de ma vocation, c'était là. Quoi.
Ouais. Voilà. Et c'était donc une manière pour vous de résoudre des contradictions, de comprendre qui vous pouviez être avec ce passé. Quoi,
exactement, puis le descendre de son piédestal aussi, parce qu'il était, il était mis beaucoup trop haut. Ouais. Et donc, c'était utile pour moi, pour ma survie psychique.
Et maintenant, vous aidez les autres en tant que psychanalyste à...
Exactement, et je vous promets que les petites filles oedipiennes et les enfants qui ont des problèmes avec leurs parents, ça me connaît. Quoi.
Ouais. Est-ce qu'on peut, Christophe Gauthier, le comparer au Tché? C'est une question qui arrive là, au standard.
Le comparer, je sais pas si on peut le comparer.
Gino qui nous dit ça, voilà, de Chalon-sur-Saône.
Le comparer, je sais pas si on peut le comparer au Tché. En revanche, ce que je peux vous dire, et c'est une anecdote qui est assez amusante, c'est qu'ils se sont retrouvés l'un en face de l'autre. Et ça, c'est peu de gens le savent.
Ils se sont rencontrés, Che Guevara et Bob Denard.
Chacun du côté d'une ligne de front. Hein, parce qu'ils défendaient
pas les adversaires, quoi.
Mêmes idéaux, mais ils se sont croisés. Oui. À le comparer, non, je pense que c'est la comparaison est inutile et illusoire.
Oui, voilà, lui c'est lui et lui c'est, lui, c'est l'autre. Oui, ce que
d'autant plus que Bob Denard est ému par un anticommunisme viscéral.
Alors, il faut dire qu'il n'a jamais été condamné pour meurtre. On va y venir maintenant, mais il a été accusé d'assassinat, d'avoir assassiné notamment le président des Comores, le président Ahmed Abdallah. Et la justice a tranché très tardivement, puisque la mort d'Abdallah, c'est 1989, et en 1999, il y a eu un procès. Bon, et notamment, il était en prison aussi, c'est là, vous disiez, j'allais voir mon père en prison, il était en préventive, ou en provisoire. Bon. Le 20 mai 1999, il est acquitté, Bob Denard, de ce meurtre du président des Comores, acquitté, faute de preuves, dira la presse. Et Jean-Yves Chaperon, pour RTL, et c'est une nouvelle archive RTL qu'on va entendre, revient ce jour-là sur les véritables raisons de cette décision de justice.
L'affaire a été vite entendue. 4 heures de délibération ont suffi au jury pour décider ce que beaucoup pressentaient. Contre Bob Denard, il manquait des accusations précises, concrètes, convaincantes. Au début de la semaine, l'expert en balistique, qui avait été pour beaucoup dans le renvoi des mercenaires devant les assises, avait reconnu lui-même que la thèse défendue par Bob Denard, selon laquelle le président Abdallah avait été abattu par son propre garde du corps, ne pouvait être exclue. Mais comment mener une enquête balistique 4 ans après les faits, sans l'arme du crime sans le corps de la victime. Non, l'expert n'était plus sûr de rien. Et puis, aussi tout au long du procès, les témoins, les proches de la victime n'avaient chargé de narc que très modérément. En fait, cette nuit du crime garde son mystère. Sur les 5 hommes présents dans ce bureau présidentiel, Abdallah et son garde du corps sont morts, Denard et son lieutenant étaient dans le box, et le 3e mercenaire est en fuite. Personne d'autre n'a vu, c'était le huis clos impénétrable. Denard est libre, son avocat Maître Varro lui a suggéré hier de poser son sac auprès des siens dans son Médoc natal.
Voilà, c'était donc Jean-Yves Chaperon dans le journal de 7h du matin du 20 mai 1999, présenté à l'époque par Christelle Rebière. Un mot de commentaire, Christophe Gauthier, sur les circonstances de cet assassinat.
Comme on vient de l'entendre, effectivement, c'est un huis clos. On sait, personne n'a su ce qui s'est passé dans le bureau présidentiel. Il y a le président Abdallah, garde du corps, Bob Denard et deux de ses hommes. Les portes sont fermées, il y a un coup de feu, le président est mort. Bob Denard ne racontera jamais ce qui s'est passé. Ses deux lieutenants non plus, quant aux deux morts, naturellement, ils ne parlent pas. En revanche, ce qu'on peut dire, qui peut être intéressant, c'est que Michel Rocard, qui était à l'époque Premier ministre...
Oui, j'ai vu ça.
Hein, il a
confirmé que la France avait commandité cette opération.
Dans un livre, absolument, qui vient de paraître, il dit qu'en 1989, il était alors Premier ministre, il était à Matignon, et il dit qu'à ce moment-là, Bob Denard était au service de la France. Ce qui peut-être expliquer aussi la raison pour laquelle, 10 ans plus tard, on ne condamnera pas Bob Denard.
Voilà, et donc en tout cas il est parti avec ses secrets. J'avais une question que je voulais vous poser là-dessus, Katia Denard. On murmure qu'il y avait 60 malles de documents et d'archives de Bob Denard
qu'on a trouvé
après sa disparition.
Oui.
Il y a des réponses dans ces dossiers.
Je ne sais pas.
Qu'est-ce qu'ils sont devenus?
Je ne sais pas où elles sont, je ne les ai pas ouvertes. Donc je les ai vues et puis maintenant je ne sais pas où elles sont.
On va faire une nouvelle pause dans cette émission et puis on va accueillir David Buron qui a mené l'enquête sur les mercenaires aujourd'hui qui sont ceux qui continuent à se battre sans participer au combat des armées régulières. Réponse donc dans un instant.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
RTL. Jacques Pradel, l'heure du crime.
Alors que sont devenus les mercenaires de l'époque, Bob Denard? Y a-t-il encore des mercenaires comparables à ceux de cette époque? Avant de donner la parole à David Buron, bonjour David.
Bonjour Jacques.
Avant de vous donner la parole et de nous dire qui vous avez trouvé dans votre enquête express pour l'heure du crime, le fait de dire que Marie-Pierre, qui est un prénom masculin parfois, exceptionnel, mais enfin bon, il s'appelle bien Marie-Pierre, un ancien mercenaire de Bob Denard vient nous appeler au 3210. Pour dire, j'étais en 95 avec lui, mécano sur le bateau le Vulcain, nous sommes partis de Hollande, nous avons fait escale aux Canaries pour faire le plein, nous sommes allés aux Comores, ils ont débarqué effectivement la nuit avec des Zodiacs. Il nous dit pas quel était son rôle dans l'opération, Marie-Pierre, mais il dit moi j'étais au courant de rien au début, j'ai tout découvert sur place. On reviendra peut-être aussi là-dessus parce qu'il fallait une certaine confiance, j'imagine, pour partir dans des opérations comme ça sans savoir trop ce qu'il y avait au bout. Alors vous, David, vous avez essayé de retrouver des anciens soldats de Bob Denard et vous en avez retrouvé un. Hein.
Oui, il s'agit du capitaine Hoffman. Donc, capitaine Hoffman, c'est son nom de guerre en réalité. Il s'appelle Dominique. Oui. Aujourd'hui, il a une vie rangée. Il travaille dans le BTP en région parisienne. Mais dans les années 80, en sortant de l'armée, le capitaine Hoffman a fait partie de la troupe de Bob Denard aux Comores. Alors, je lui ai demandé tout simplement de me dresser un portrait de Bob Denard. Qu'est-ce qui faisait que les jeunes hommes avaient envie de le suivre au bout du monde à l'époque? Oui. Et vous allez l'entendre, le langage est parfois un petit peu cru, mais l'admiration pour le vieux, comme on surnommait Bob Denard, est toujours intacte.
Premièrement, déjà, il en avait dans le pantalon, ça c'est notre langage, hein. Il était toujours en tête, hein. Quand il vous donnait des ordres ou quand il y avait une opération, c'était lui qui était devant déjà. Ensuite, il avait un charisme, hors norme, hein. Il était anticommuniste, il n'était pas du tout raciste, et il était visionnaire, faut voir ce qu'il avait fait aux Comores, hein, avec les hôtels, etc., en développant les casinos. Et puis, c'était quelqu'un qui était hors du commun, quoi, hein. C'est ce qu'on disait, on rentrait dans son bureau avec nos idées, on en ressortait avec les siennes, quoi. Un gourou, hein, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai tout le temps confondu la vie, hein, comme dit la chanson, avec une bande dessinée. Donc, pour moi, la rencontre était inéluctable. Hein. C'est les plus belles, encore une fois, c'est les plus belles années de ma vie, quoi.
Alors David Buron, est-ce qu'il existe encore des mercenaires type Bob Denard?
Non Jacques, des mercenaires comme Bob Denard, il n'y en a plus. Quand un type comme lui se retire, il n'y a plus de place à prendre, m'a confié le capitaine Hoffman. Mais ce n'est pas seulement une question d'homme. Il faut savoir que le monde du mercenariat a beaucoup évolué en 15 ans. La nature des conflits a changé aussi avec la fin de la guerre froide et l'émergence du terrorisme. Et puis ce n'est plus politiquement correct pour les États d'envoyer des barbouzes faire le coup de feu. Ouais. Aujourd'hui, il existe un véritable marché de SMP, des sociétés militaires privées. Ce sont des entreprises lourdement équipées qui proposent des services de sécurité aux États, non pas dans les zones de conflit, mais dans des zones dites dégradées. Je vous laisse apprécier la nuance ou le phénisme.
Il y en a en Irak, notamment. Ouais.
Exactement, oui, la plupart de ces sociétés sont américaines, anglaises ou australiennes, et on les trouve principalement en Irak et en Afghanistan.
Alors, est-ce qu'il existe des SMP, comme vous dites, françaises?
Il en existe peu, et leur champ d'action est limité par une loi anti-mercenariat adoptée en 2003. En général, la seule voie possible pour les jeunes Français qui veulent faire carrière dans les armes, c'est justement de se faire embaucher par ces sociétés militaires américaines. Les Français qui sortent de l'armée sont toujours appréciés pour leur savoir-faire, et puis ça rapporte pas mal d'argent. C'est ce que m'a raconté Sam. Alors là aussi, Sam, c'est un nom de code. Entre 2004 et 2007, cet homme, qui tient à rester anonyme, a travaillé pour une SMP anglaise du nom d'Erinis. Il était chargé de sécuriser un puits de pétrole et de former des Irakiens à la sécurité. Donc, inutile de dire que les soldats privés qui s'engagent là-bas travaillent dans des conditions extrêmes, le danger est permanent. Et pourtant, comme à l'époque de Bob Denard, ils sont nombreux à choisir cette vie. Sam, bien que ce soit un homme peu bavard, a bien voulu s'en expliquer.
Pourquoi on va dans ce genre de choses? En général, il y a une part de romantisme. Il y a une part d'action, on a envie de vivre. Ça ne peut pas être que pour de l'argent. À un moment donné, on ne vit pas sous stress continuel et dans la peur, simplement pour un beau salaire. Je pense qu'effectivement, il y a quand même un peu une part, pas d'arrogance, mais je pense quelque part qu'on a envie de vivre ce que les autres ne vivent pas. Donc l'adrénaline nous pousse, effectivement, on est un peu drogué par ça. Et puis il y a ce côté aventure où que personne n'arrivera à vivre parce qu'il faut être au-delà mentalement des capacités normales pour pouvoir survivre dans un milieu hostile comme ça. Il y a la camaraderie qui est là-bas, il y a les relations humaines, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui sont quand même assez directes. Il n'y a pas de mensonge, il ne peut pas y avoir de menteur. Quand on est face à la mort continuellement, il n'y a que des gens qui sont dans le plus juste, dans la vie la plus juste.
Question que je ne peux pas ne pas vous poser, David Buron, dit toujours que le nerf de la guerre, c'est l'argent. On parlait des valises de billets découvertes par Katia Denard dans un jour.
C'était juste une fois, quand même.
Oui, je vois, mais il y en avait beaucoup, non?
Peut-être.
Bah, non, pas peut-être, vous dites dans votre livre que vous les avez étalés en tant que petite fille.
Les billets, voilà. Cette fois-là, oui.
Ouais, combien gagnent aujourd'hui ces gens qui travaillent dans les SMP, vous le savez?
Oui, Sam m'a dit que lui, pendant la période 2004-2005, il gagnait environ, il pouvait gagner jusqu'à 15 000 euros par mois. Mais il faut savoir que les Français sont un petit peu moins bien payés que les Américains et les Anglo-Saxons sur le terrain.
Ah, chercher l'erreur. On va se retrouver dans un petit instant, une nouvelle pause, et on retrouve Katia Denard et Christophe Gauthier.
14h-15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Dreams, Eurythmics sur RTL.
L'heure du crime sur RTL.
C'est la dernière partie de l'heure du crime. On revient sur le personnage de Bob Denard et sur cette vie agitée à la fois d'aventurier, de soldat, de corsaire de la République, comme il s'appelait, mais aussi une vie personnelle très agitée. Katia Denard, vous évoquez cet aspect-là des choses dans votre livre qui est, je le rappelle, publié chez Anne Carrière il y a à peu près une semaine. Ouais. Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas. Ça, c'est le titre du livre, pour le retrouver et le lire, parce que je vous le recommande vraiment. Vous avez découvert petit à petit l'existence d'abord d'une sœur, puis ensuite d'autres enfants.
Ouais.
Et ça a été une déchirure terrible pour la petite fille que vous étiez.
Oui, alors je
pense... Votre Oedipe en a pris un coup.
Ouais, mais je pense qu'il s'est construit comme ça même. C'est que moi, on m'annonçait les naissances de mes frères et sœurs quand ils étaient déjà là. C'est ça qui me mettait le plus en colère. C'est que quand j'ai découvert l'existence de ma petite sœur Nadia, oui, elle avait déjà 3 ou 4 ans, et c'est le poids du secret qui est le plus lourd, je trouve. Alors déjà, il y avait le secret de son métier, et en plus, il y avait le secret de sa vie privée. J'ai conscience, maintenant que je suis une adulte, qu'un homme exceptionnel, avec un métier exceptionnel comme celui-là, ne pouvait pas avoir une vie amoureuse plate.
Régulière,
voilà. C'était tumultueux. Il fallait que ça colle aussi, ouais, au personnage.
Il a eu au total 7 enfants de 7 femmes différentes.
8 enfants avec
7
femmes.
8 enfants de 7 femmes, ouais, d'accord. Ouais. Oui, donc, non, mais...
bah, oui, et un peu partout dans le monde, quoi. On est tous d'origine différente. Moi, je suis à moitié grecque, moitié malgache par ma mère. Il y a des Comoriens. Ma sœur Nadia est moitié mauricienne. Mon frère est juif marocain. Il y a des musulmans, des juifs, des catholiques.
Ouais. Voilà. Et justement, est-ce que vous voyez toujours les uns les autres?
Oui.
Comment ça se passe, quoi?
Ça se passe plutôt bien, même très bien aujourd'hui. C'est que ma colère d'enfant, heureusement, a disparu. Et que, alors en plus, depuis que mon père est mort, nous sommes encore plus unis autour de la douleur de l'avoir perdu. Et ça a délié les langues, surtout on a pu se parler. La colère a disparu complètement. Mais avant ça, on commençait déjà à se rapprocher. Puis avec ma sœur Nadia, on est très proches. J'ai un frère aîné, Philippe, avec qui on est très proches aussi. Donc ça ressemble à une famille maintenant, à peu près. Même s'il en manque quelques-uns.
Ouais, mais vous leur avez envoyé le livre, évidemment.
Bien sûr, oui. Ils ne m'ont pas demandé. Ils savaient que j'étais en train de l'écrire. Ils m'ont pas demandé à le lire pendant.
Oui.
Je leur ai envoyé dès que j'ai eu les épreuves, quoi. Donc ils l'ont tous lu.
Oui. Et votre maman, parce que vous avez été très proche de votre maman, évidemment, pendant toutes ces années, et dans votre tête, alors, parce que c'est elle aussi vous a annoncé un jour qu'il y avait d'autres enfants.
Elle était présente quand on me l'a annoncé. Par exemple, ma sœur, qui vient juste après moi, elle était là quand on me l'a annoncé. Sinon, les autres, c'était en fouillant dans ses affaires, encore une fois.
D'accord. Christophe Gauthier, on a dit au tout début de l'émission, donc, vous aviez été blessé par balle au cours de ce coup d'État de 1995. Et Bob Denard s'est inquiété par la suite de savoir ce que vous étiez devenu, racontez-moi.
Oui, absolument. Donc en 95, comme on avait pu travailler tranquillement, je l'avais vu. Donc j'avais vu un homme qui était soucieux, qui était dans son bureau, qui était en treillis, qui savait que le vent allait tourner, que les choses allaient mal tourner. Ça, on l'a déjà raconté. Mm-hmm. Donc j'ai été blessé, j'ai été évacué, opéré, rapatrié au Val-de-Grâce, puisque j'avais été blessé par l'armée française qui ensuite m'a prodigué des soins gratuitement.
Vous avez indemnisé pour ça ou...
Non, j'ai pas été indemnisé. Ouais.
C'était les risques du métier.
C'était les risques du métier. J'étais au mauvais endroit et au mauvais moment.
Ouais.
Je n'en tire aucune gloire.
Ouais.
Et pendant toute cette période, je sais que le colonel Bob Denard a demandé, a toujours demandé de mes nouvelles, savoir si c'était grave, comment j'allais. Et bien des années plus tard, puisque après l'épisode de 95, il rentre en France où il est incarcéré de nouveau, nous sommes de nouveau rencontrés. Et là j'ai redécouvert un bonhomme extrêmement attachant. Enfin, c'est quand on dit les affreux, les chiens de guerre, les types sans foi ni loi. Quand en 95, quand il était aux Comores, il voulait honnêtement embellir l'île.
Il voulait aussi faire une zone offshore pour des casinos et créer des banques, non? Enfin, c'est toujours dans le souci de pas faire d'image d'Épinal, quoi. Je veux dire, le personnage. Ouais.
Je ne dis pas que il était dans la philanthropie la plus totale. Mm-hmm. Pour autant, ils avaient une vraie préoccupation d'améliorer d'améliorer, moi pour ce que j'en ai vu, hein, mm-hmm. d'améliorer le sort des Comoriens, mm-hmm. d'améliorer la vie quotidienne à Moroni.
Ouais, ce que je peux vous dire, c'est que c'était pas un homme d'affaires. Par contre, hein. C'était pas un homme d'affaires parce qu'il s'est fait plusieurs fois rouler dans la farine et qu'il est mort vraiment avec des dettes par-dessus la tête, totalement ruiné. Donc il n'était pas cupide.
Ouais. Voilà. Et la maison a été vendue pour payer les avocats, hein, c'est ça.
Exactement. La maison de famille. Impôts et les avocats. Ouais.
En 1998, pardon Jacques, quand je l'ai revu à ce moment-là, il travaillait sur un projet qui était un projet il mettait au point une petite machine qui permettait de récupérer les aiguilles. Les aiguilles souillées hein, pour un usage unique. Donc il voulait donner ça et vendre ça pour les hôpitaux et les dispensaires.
D'accord. Alors on va entendre une dernière fois la voix de Bob Denard et c'est un document qui date de 2006. Il a 76 ans et bah, il sait qu'il va y avoir un procès à nouveau cette fois-ci pour le coup d'État de 95 aux Comores. Et les journalistes essayent de l'appeler quoi pour lui demander de revenir sur sa vie, de raconter le contexte.
Et vous avez entendu, malade, là, à cette époque-là.
Il refuse finalement. Mmh. Il refuse et officiellement, pour une fois, il dit « Je suis en retraite ».
Bon, bah, c'est placardé partout. J'ai plus besoin de ça, je suis à la retraite maintenant. On a raccroché là. Hein. J'ai des femmes, j'ai des enfants, j'ai de quoi m'occuper pour le restant de mes jours. Ça m'intéresse plus, ces histoires-là. Voilà, la page est tournée.
Une page qu'il va falloir pourtant rouvrir en correctionnel. Procès inédit avec pas moins de 27 mercenaires convoqués pour association de malfaiteurs. Bob Denard et ses lieutenants s'étaient rendus aux militaires français après l'échec de l'opération des Comores. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison.
Voilà, c'était Jean-Alphonse Richard, bien sûr, sur l'antenne d'RTL. Je voulais absolument qu'on mette cette chanson qui a l'air de tomber comme ça du ciel. C'est Indochine.
Oui.
Et il y a une phrase qui dit Bob Moran face à tous les chacals.
Oui, en fait, c'est... Moi, la phrase que j'ai mise dans le bouquin, c'est « Et soudain, surgit face au vent, le vrai héros de tous les temps ». Et je croyais qu'il parlait de mon père, moi, quand j'étais petite. C'est sorti en 81, donc j'étais pas très vieille. Et je croyais qu'il disait Bob Denard contre tout chacal, donc j'étais très fière.
Ben non, c'était Bob Moran. Mais pour vous, c'était Bob Denard, c'est le principal.
Oui, hein, j'étais, oui.
Je vous remercie beaucoup, en tout cas. Merci infiniment.
Merci à vous, Jacques.
Je rappelle que ce livre n'est pas une autobiographie. Hein. C'est votre livre, vraiment, de Katia Denard, donc la fille de Bob Denard. Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas, aux éditions Anne Carrière. Merci beaucoup, Christophe Gauthier.
Merci à vous.
Et on se retrouve évidemment demain, mais auparavant, on va écouter un peu de publicité et retrouver Flavie Flamand.